Au niveau des questions.
This meeting is being recorded.
Soit il n'y en a pas trop et je donne la parole, soit il y en a beaucoup et j'essaie de faire une synthèse, on verra au fur et à mesure, voilà. Donc nous nous retrouvons parce que la Société française de thérapie familiale, par la voix de son directeur Alberto Heger, propose des cycles de conférences débats depuis l'année 2022. Alors en 2022, nous avions commencé par le dispositif au vu des défis contemporains. Il y avait qui était intervenu, Samed Gelaoui. Il y avait Valérie Collard, Heidi Pover, Véronique Lopez-Minelli, Marcimiliano Somantico, Lucien Chaumy, Alain Lafage, Anne Loncan avaient fait des présentations en 2022. Cette année, nous sommes donc en 2023. Nous poursuivons, grâce à Alberto, toutes ces conférences, donc débats. Cette année, la thématique, c'est « Renouveau des idées et pratiques en thérapie de famille ». Merci de fermer les micros, voilà.
C'est Lilou qui parle.
C'est Lilou qui parle. Donc, ce soir, eh bien, nous allons parler de dons, dettes et agapés dans la famille et le couple. Il y aura une autre, je vous donne les quatre conférences de l'année, puis après, on reprend celle d'Alberto Heger et de Karine Maraquin. Donc, la deuxième, ce sera le vendredi 7 avril. Ça sera la thérapie familiale, psychanalytique et théorie de l'interculturation avec Myriam Mokdad. Ensuite, il y aura le 9 juin, l'archaïque comme un langage avec Christelle Lebon et Lucien Chaumy comme discutants. Et le vendredi 20 octobre, il y aura Albert Sicone qui présentera « Pouvons-nous penser une incestualité ordinaire au service du développement ?» Voilà pour notre projet de l'année dans le cadre donc de notre société. Donc ce soir, eh bien, c'est dons, dettes et agapés dans la famille et le couple avec Alberto Heger qui me propose sa conférence et Karine Maraquin qui sera sa discutante. Donc je le présente quand même pour le fun, pour le cadre. Hein. Donc Alberto Heger est psychiatre, psychanalyste, membre de la Société française de thérapie familiale de psychanalytique dont il est le directeur scientifique. Il travaille également au laboratoire de recherche de psychologie de l'Université 5 à la Sorbonne, Paris. Il est auteur de beaucoup d'ouvrages, donc, et le plus récent, c'est « La haine de soi et la haine de l'autre », psychanalyse et la stigmatisation, voilà, chez Duno, comme habituellement. Et ensuite, il sera discuté par Karine Maraquin, qui est psychologue clinicienne, thérapeute de couple et de famille, qui est membre de la Société française de thérapie familiale psychanalytique et qui est membre du comité de rédaction du divan familial. Voilà, donc à partir de maintenant, ben voilà, la parole est à Alberto et à Karine. Et je vous remercie d'écrire toutes vos questions. Et puis ce qui est intéressant, même si ce n'est pas des questions, les associations libres aussi, c'est intéressant parce que ça fait presque notre texte à la fin. Voilà, et je vois qu'il y a Christiane,
bonjour.
Présidente voilà, de la Société française, bonjour. Christiane Joubert. Voilà, Alberto et Karine, ben c'est à vous.
Si, oui, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je me réunis. On commence la série de cette année par la conférence qui est la mienne. Les mots conférences me paraissent un peu trop inhabituels dans nos habitudes. On est dans des groupes, on travaille beaucoup avec les autres et en communication avec l'autre. Donc, conférence, c'est quelque chose de solennel, mais quand même, c'est un certain rituel que nous allons développer, peut-être inventer des modalités à l'intérieur du rituel. Et je voulais, parce qu'il y a encore des gens qui sont en train d'entrer, et je profite et cet instant de début de notre travail de ce soir pour rappeler Eduardo Greenspan qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et c'était un ami, un membre de notre société, un homme d'une très grande qualité morale et surtout un créateur. Il adorait et la métapsychologie et travaillait sur des concepts nouveaux avec rigueur également. Et c'était aussi quelqu'un qui appréciait dans le travail clinique de commencer à travailler à partir de l'observateur, c'est-à-dire le psychanalyste. La vie intérieure du psychanalyste l'intéressait avant même de celle du patient parce qu'il penser comme nous les pensons tous, que c'est notre esprit, notre âme, notre inconscient retentissent profondément et d'une façon inimaginable à ce que le patient exprime. Donc, on est un peu triste par sa disparition. Il allait venir justement pour cette période. Il venait tous les deux fois par an et en France pour les amis, pour participer à nos activités. Et il avait prévu ses voyages pour cette début de l'année. Et hélas, il n'est pas là. On se souvient de lui avec beaucoup d'amour, de sympathie. Et je crois qu'on est très nombreux à penser que c'était un grand ami et quelqu'un qui a beaucoup aidé au développement de nos idées. Alors, si vous me permettez, j'ai fait engraisser les j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Et de toutes les façons, je vous demande un tout petit peu d'indulgence et de patience, notamment. C'est peut-être un tout petit peu compliqué de demander que tout le monde se taise, alors que nous prenons sans arrêt la parole, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Émile Liu disparaît et réapparaît, et c'est assez. On pourrait faire toute une historique de ce que c'est ce type de réunion, par les entrées, les sorties, les gens qui repartent, etc. Et je pense que ça. Tout ça signifie beaucoup de choses. On va essayer de réfléchir ensemble à tout ça. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est le don, la dette et agapé. Et dans la famille et le couple. Et donc, dans les champs des relations sociales, dont font partie les relations professionnelles, les échanges se font par contrat ou par don, rappelle Fuster. Et, par exemple, le contrat de travail stipule dans ces termes la nature du travail fourni contre un salaire. Fuster observe, permettez-moi, je vais voir si je peux supprimer ces bruits.
Je vous prie de m'excuser, il faut vraiment être vigilant au micro quand Alberto fera le temps de sa conférence. Après, quand on échangera, ce n'est pas très grave qu'il y ait des bruitages, mais sinon on entend.
On voit le bruit qui apparaît, c'est quand il y a un carreau. Là, c'était voilà. Le 06 66 31 43 32 qui faisait du bruit, là.
Oui, voilà, je crois que ça va.
Voilà.
Merci.
En bas à gauche, hein. En bas à gauche, hein. Voilà.
Et on peut le couper, hein, l'animateur, il peut couper là le 36.
Oui. Je te remercie, Elisabeth. Donc, alors, Fuster observe que malgré cela, les dons occupent une place notoire dans les travaux sociaux et thérapeutiques, le nôtre. Au-delà des lois établies sans un contrat, les sacrifices. Et les sacerdoces sont des dispositions qui inspirent nombre de ces activités, sans quoi les professionnels peuvent être considérés comme dépourvus des cœurs. Le don y est implicite, offre de son temps, de soi, dans le dévouement et la générosité. En d'autres termes, on offre plus que ce que l'on doit. Dans ce cas, la référence à Agapé vient à notre secours. En Grèce ancienne, Agapé est une des formes de l'amour, une offre désintéressée, sans attente de contrepartie de celui qui la reçoit, sans condition, sans calcul. En grec, agapé évoque la tendresse, le dévouement, un amour d'amitié ou de parenté. Elle s'inspire des idéaux partagés avec d'autres comme l'amour de la vérité et de l'humanité. Elle se différencie du désir amoureux, appelé Eros, qui sous-entend possessivité, peut-être emprise, comme si l'amour sensuel prédisposait à la conquête de l'autre et en conséquence à le priver de sa liberté. Excusez-moi, je m'occupe. Et il y a encore des gens qui arrivent. Voilà. J'essaierai de développer dans la famille les espaces du don, du donneur et de son récipiendaire, et celui du don sans attente réciprocité, l'agapé. Je vais étudier une des formes de la dette, celle du sentiment éprouvé lorsque l'on a reçu un don. Pas de la dette envers autrui pour une faute commise ou fantasmée. Un exemple extrême serait celui du délinquant qui a une dette vers la société. La dette des sangs a une place singulière dans certaines cultures méditerranéennes parce qu'elle est liée à la vengeance. Le sujet se considère bafoué et il estime de son devoir de laver son honneur. Pour bien illustrer ce qu'il convient d'entendre par dette à la suite du don, voici le cas d'Igor, un de mes patients en analyse, qui est amené à manquer certaines séances pour des raisons professionnelles, dit-il. Il souhaite que je les remplace par d'autres en dehors des heures et des dates régulières. D'habitude, je lui dirais que cela n'est pas possible, rappelant notre contrat de départ et en essayant d'avancer des éclaircissements sur la signification de telles demandes. Mais une fois, j'essaie et lui propose un rendez-vous complémentaire. Il me semble se trouver à un moment dans une phase d'analyse positive et que les processus thérapeutiques avancent. À la séance suivante, à mon grand étonnement, il dit qu'il s'ennuie ici, qu'il a peur de rien avoir à dire alors qu'il sait que ses problèmes sont toujours là. Il ne trouve pas d'intérêt dans notre travail. Il n'aurait rien appris de nouveau comparé à ce qu'il a déjà travaillé avec dans sa précédente analyse. Plus encore, chaque fois, dit-il, il répare plus mal qu'il n'est arrivé, accablé, défait. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Me demande-je, un peu déçu par cette réaction. Je lui avais pourtant apporté une solution à sa demande. Je passe en revue les éléments qui me permettent de mesurer s'il y a eu des progrès dans notre travail. Je trouve le bilan plutôt positif, tout en pensant que j'ai besoin de restaurer mon auto-estime mise à mal par cette situation. Voici une explication possible. Le don a été insupportable pour Igor. Cela a déclenché en lui un vécu de panique, peur de l'emprise sur lui, peur d'une manipulation, d'une intrusion peut-être. Il était plus facile de rejeter en bloc la proposition comme si le don créait des compromis intenables dans la mesure où il, lui, en tant que récipiendaire, se sentait obligé de faire un contre-don. Le don fait partie d'un cycle bien répertorié depuis Moss. Dans ses observations qui touchent pour l'essentiel des cultures appelées traditionnelles, il s'agit des cadeaux offerts, mais comme nous le verrons, ces remarques s'appliquent à nos échanges familiaux et sociaux. L'acte de donner implique trois moments qui suscitent à leur tour une obligation. 1. Faire un don. Le donateur fait un don. On peut offrir un objet ou faire un service. Le don qui flatte les narcissismes de l'autre est, comme on le comprendra, très prisé. Deuxièmement, accepter le don. Celui qui reçoit le don ne peut le rejeter. Il serait traité de mal élevé et d'ingrat. Le don suscite un sentiment de gratitude. Mais par ailleurs, le don le rend dépendant envers les donateurs, voir son vassal. Il rentre en moi, peuvent dire certains. Dans certains cas, c'est lui qui reçoit et éprouve un sentiment de culpabilité, aussi bien s'il refuse que s'il accepte. Pour solder sa dette, que faire alors? En principe, troisième point, rendre le don. C'est ce qu'on appelle le contre-don. Le contre-don doit être des valeurs égales ou supérieures au don. tout ça dans les cultures dont on parle là, mais vous sentez là que c'est assez généralisé le système dont j'ai parlé là. Dans ces derniers cas, le premier donateur pourra à son tour se vivre dans l'obligation de donner un nouveau don. Et le cycle recommence. Le calcul de la dette est donc déterminant pour évaluer si les contre-dons qu'on a reçus permet l'acquisition de celui qui a reçu le premier don. Dans les Potchas, un exemple révélateur étudié par Moss auprès d'une tribu amérindienne, des candidats à la chefferie s'affrontent dans un duel de générosité pour voir qui va être élu comme chef. Chacun distribue certains de ses biens pour faire état de sa supériorité sur son rival. Dans les faits, ces comportements peuvent conduire à se ruiner. Dans les faits, ces comportements peuvent conduire à se ruiner. Il y aura un moment où l'un des deux n'aura plus rien à dilapider et se trouvera donc vaincu. Fréquemment, donner implique un triomphe sur l'autre, avoir une maîtrise sur lui. Selon Moss, être en dette implique être prêt à s'offrir à l'autre, à preuve de sa liberté, à bafouer son identité, à se détruire peut-être. Cela est d'autant plus dramatique que ce dernier, totalement appauvri, n'aura que l'offre de soi. C'est le don absolu. Si le donateur se montre désintéressé, il entend néanmoins une récompense, ne serait-ce que des natures symboliques, ce qui flatte son narcissisme. Il convient donc d'admettre que les dons sous cette forme impliquent une violence. La charité peut être blessante. Celui qui la reçoit se sentira en dette et rabaissé, même si elle est parée des meilleures intentions. Le paradoxe apparaît ainsi dans les messages du donateur. L'un est sous la liberté et l'acte de donner qui n'entraverait pas celle de l'autre, mais les dons créent des faits une obligation, ce qui rend ce dernier dépendant. En pratique, certains parents peuvent invoquer ce qu'ils ont donné de façon à provoquer l'enfant pour l'obliger à demeurer auprès d'eux. Ils diront, par exemple, « Et avec tout ce qu'on a fait pour toi ?» Ces phrases seront suivies de l'énumération des actions réalisées pour l'enfant, stages d'apprentissage, des langues, des sports, d'interprétation musicale, voyages payés, cadeaux, professeurs engagés, en soulignant que leurs propres parents ont fait bien moins que c'est parfois une image sacrificielle de l'adulte qui sera avancée dans le but conscient ou inconscient, le plus généralement, de culpabiliser encore plus l'enfant. Des années de formation de l'enfant, il rappelle leurs soucis, les nuits blanches, les démarches, les recherches des solutions, le temps perdu à cause de lui. Dans ce cas, la suggestion est ostensiblement réclamée. Coupable, l'enfant peut se plier à cette demande, renonçant à se réaliser, à s'émanciper, à paraître. Tu es mon bâton de vieillesse, ce qui est par ailleurs institué dans certaines cultures où le dernier est d'une fratrie, où la fille qui n'est pas mariée reste au foyer pour accompagner les parents âgés. Dans notre société, nombre de mères, après les divorces, ont des difficultés à se remarier et les enfants devenus adultes peuvent rester auprès d'elles. Extra des différents exemples cliniques, ces exemples montrent le poids de la dette, la portée des sacrifices. Au fond, ces enfants ont très peur de blesser les parents en les abandonnant. Cela étant, d'autres formes de contre-dons sont courantes. Combien de mères disent se sentir obligées de laisser leurs enfants jeunes en garde chez leur propre mère? Pour quelques jours ou pour quelques années. Afin de comprendre ces comportements, une interprétation a été proposée. Ces mères se sentent coupables d'avoir quitté leur propre mère en les privant d'elles-mêmes. Elles vivent leur maternité comme si elles jetaient du sel sur la blessure encore ouverte de leur mère. C'est Monique Cornu-Jeannin qui développe cette hypothèse. L'acte de donner donc crée des surprenants malentendus. C'est peut-être s'explique l'effet suivant. Les parents décident de léguer leur patrimoine ou une partie aux enfants en avance sur leur héritage. Ces derniers expriment leur gratitude. Or, des conflits éclatent parmi les frères et sœurs, certains estimant avoir été moins favorisés que d'autres. Ce qui devrait inciter au calme et au réconfort se transforme en une guerre de reproches, les parents n'étant pas épargnés. Les dons a fait ressortir d'anciennes rivalités, amoindrissant la noblesse de l'acte des parents. C'est l'histoire du roi Lear de Shakespeare. Dans les familles symbiotiques, les sentiments des dettes sont fréquents. L'enfant est vécu comme une partie de soi. Par exemple, s'il s'en va, s'il fait différent de soi, s'il s'agit comme conjoint, quelqu'un venant d'un autre milieu, il est considéré comme un traître. Ces familles ont une vue unilatérale du monde. Elles construisent des théories pour défendre leur mode de vie, leur supériorité et leurs principes en décriminalisant les autres familles. Et en ce qui concerne certains excès et abus ayant été commis parmi les siens, c'est la loi du silence. Les secrets ne peuvent se communiquer sous peine de punition. On devine les peurs que cela implique. Cela, c'est qui essaient de partir, faire leur chemin ou de penser autrement, vivre dans la terreur. En relation avec la famille, dans les contextes des soins et de l'éducation de l'enfant, il est à noter que la mère est en position de donatrice et que l'enfant approuvera en conséquence un sentiment de dette. C'est le propre de la formation de l'être. Même si la mère exprime ouvertement qu'elle n'attend rien en retour de son enfant, que son bonheur lui est suffisant, le sentiment de dette chez l'enfant, qui est inconscient, n'est pas moins intense. On dirait, on paye pas un salaire à sa mère, hein. Il était 20 euros, je ne sais pas. Dans ces cas, le vécu d'obligation est encore plus important et la peur d'être dominé par les donateurs est très vive. Comme chez mon patient Igor, l'offre étant en plus, celui-ci s'est senti accablé et a eu envie de rabaisser le travail. Donner trop ne permet guère l'expression des gratitudes. Il y a d'autres interprétations à ce qui s'est passé avec Igor. C'est comme si et l'analyse que j'étais, mais je m'ai désautorisé par rapport à la règle du cadre qui pensait stricte. Et cette désautorisation peut être vécue d'une façon particulière, comme si un analyste ne devrait jamais changer, jamais être humble, modeste. Il y a beaucoup de choses à réfléchir sur cette question, parce que vous savez, ça a entraîné des polémiques à l'intérieur des champs psychanalytiques. Et cela étant, dans les cas du don en famille, une nouvelle possibilité de contre-don est offerte en les différant dans un changement de destinataire. Au lieu de s'adresser à son parent, on peut étendre cette idée aux deux parents, bien entendu, l'enfant, tout enfant, le récipiendaire, offrira de la tendresse, des soins et de l'éducation à son propre enfant. C'est ce que Fustier appelle l'échange vertical. Fustier dit encore que l'enfant pourra ainsi d'autant plus donner à ses propres enfants. Il aura su reconnaître la dette envers ses parents qui en sera ainsi honoré. Je cherche la personne qui parle parce que il faut faire un peu la police, vous voyez. J'y continue. Donc, il aura su reconnaître la dette, on reconnaît la dette avec ses parents, et du moment et qu'on honore à ses propres enfants. Une des conséquences de la transmission est que l'enfant se sent obligé d'entretenir un lien à ses parents et à les aimer. Et en guise de reconnaissance, les enfants veillent également à bien travailler et bien suivre les recommandations reçues. Ils craignent de décevoir leurs parents consciemment ou inconsciemment. Il semble important que la dette, tout en se maintenant, se développe au niveau de la reconnaissance que l'on éprouve envers ses géniteurs. L'expérience subjective s'active, ce qui permet d'associer la représentation du parent au don reçu, à l'amour que l'enfant y reconnaît, au plaisir éprouvé à cette occasion, à la considération qu'il sent comme étant celle de ses parents envers lui. Et je me souviens d'un cas d'une grand-mère qui avait l'habitude de nous faire pourvonner par une liste. Et il y avait plusieurs petits-enfants et il donnait le même cadeau à tous les petits-enfants, un jouet ou quelque chose de ce genre. Et les enfants ne supportaient pas parce qu'ils voulaient quelque chose d'individuel, que entre les cadeaux et la personne qui les reçoit, c'est-à-dire eux-mêmes, il y a une relation où on sent que l'autre a pensé à lui. Les cadeaux, c'est une histoire très, très délicate. On verra dans un cas de couple. Rosine explique en séance de thérapie des couples qu'elle aime offrir des parfums à son conjoint Régis. Elle lui en achète souvent en boutique, en supermarché, là où il passe. Elle ne perd pas l'opportunité pour le faire en imaginant qu'il recevra les cadeaux avec joie et qu'il va l'utiliser. Elle ajoute, c'est beau qu'un homme mette du parfum. Mais son conjoint réagit toujours avec peu d'enthousiasme. Les flacons s'accumulent et il souffre d'être là pour rien. Elle verra qu'il se parfume quand il sort de voir des amis et au spectacle. Régir ne dit pas grand-chose en séance. Alors Rosine nous avoue avoir remarqué qu'il utilise les parfums offerts juste pour aller travailler. C'est curieux. Comment pas les soupçonner, dit-elle. Au travail, dans son bureau, l'équipe est éminemment féminine. À elle, il a envie de plaire. On pense que la frustration chez Rosine vient de l'absence de reconnaissance de Régis, ainsi que le manque d'éclairage de cette abstinence, alors que celui-ci sait ce que sa compagne attend. L'utiliser aurait pour Rosine la fonction de recevoir un contre-don. Elle reconnaît qu'elle a peu ou pas de raisons de soupçonner Régis d'infidélité, sauf que cette question a joué un rôle singulier lors de leur rencontre. Rosine a connu Régis dans son ancien travail. Il était son supérieur. Il vivait en couple avec Clotilde, dont il a fini par divorcer. En plus, il avait une réputation de séducteur invétéré. Rosine avoue avoir été attirée par cette réputation et qu'elle a voulu le séduire pour devenir la préférée parmi ses concubines. C'est peut-être pour cela, dit-elle, qu'elle ne dort pas de désormais. Une femme risque de faire comme elle et les ravir, conclut-elle avec les sourires. Et cette explication, aussi sincère et juste qu'elle paraisse, se révèle incomplète. Telle qu'elle paraît s'y attendre, les dons de Rosine permettraient les marquages de sa présence sur Régis, pouvant la rassurer de leur attachement réciproque. C'est-à-dire que les parfums restent quelques heures sur la peau et les vêtements. Ils deviennent un symbole de durée. Un signe, n'est-ce pas? Les êtres humains cherchent sans arrêt des signes. L'approche de cette situation nous mènera vers l'analyse des doutes et des incertitudes de Rosine sur la pérennité de leur lien et du fait que Régis ne semble pas pressé de la tranquilliser par rapport à leur avenir commun. Le silence est un bon moyen de maîtrise. C'est Borzomini Nagy qui a mis en valeur les aspects éthiques de la famille et centré sa réflexion sur la dette de vie des enfants envers leurs parents ce qui peut conduire les premiers à des sérieux handicaps s'ils ne parviennent pas à se dégager d'un profond et silencieux sentiment de culpabilité. Voir aussi Monique Wiglowski qui a beaucoup travaillé sur la dette des vies. Chaque famille, dit-il, essaie de protéger son lignage. Elle s'est construit une mentalité, des valeurs sur la place et la forme de la sollicitude, de la disponibilité, d'après un critère assez généralisé, celui du mérite. Chacun de ses membres mérite attention, soins, éducation, être informé. Mais cela l'engage par des dettes à rétribuer l'offre des contre-dons. L'individu débiteur reste sensible aux ordres qu'on lui donne et aux remontrances qu'on lui fait. Un donneur mal, trop sévère ou manipulateur peut facilement faire que l'autre se sente en faute. Ça, c'est Barzanini Nagikli. Parfois, la loyauté prend une voie apparemment opposée, celle de la révolte, sous forme de rupture, par exemple. Ce n'est qu'il ne va pas provoquer un sentiment de culpabilité si fort que les remords vont annuler l'effort d'indépendance. Et même, tout progrès chez les enfants, succès professionnel, mariage, naissance, sollicite les champs de loyauté en les rendant encore plus débiteurs envers leurs parents. J'ai observé ces dérives lorsque les parents aiment trop insenser ce qu'ils ont fait pour leurs rejetons. Toutefois, si le ressentiment des dettes est très fort, l'enfant peut devenir cynique. Il distille l'amertume de ne pas savoir comment exprimer de la gratitude à l'égard de ceux qui l'ont éduqué. Dans ce cadre s'inscrit l'exemple de la réaction thérapeutique négative. Les patients en thérapie ne peuvent pas accepter ces progrès thérapeutiques. Ils les vivent comme s'ils trahissaient sa loyauté envers sa famille et tiennent à déposer sur les son thérapeute la responsabilité d'avoir voulu s'émanciper. Dans nombre des cas, il est difficile pour les enfants d'accepter les droits de recevoir comme un acte naturel. Ils se sentent obligés de rembourser leurs dettes envers leurs parents. Ils n'y arrivent pas et si l'on leur empêche, ils sont malheureux. Ce n'est pas un cas universel et j'ai presque plutôt de ne pas se culpabiliser pour tout ce qu'on vous a donné. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais vous parler maintenant d'une séance de supervision à ma charge d'une équipe institutionnelle. Les soignants expliquent que dans une institution de leur région, la direction a interdit la prise du petit déjeuner. Je le pose aussi parce que c'est tellement bizarre et ils vous privent de beaucoup de choses, la direction, mais les petits déjeuners, ils sont scandalisés. D'autant plus que cela s'inscrit dans une série de mesures arbitraires. Heureusement, nous, on ne prend pas les petits déjeuners. Ils les soigneront. Notre ami Alain arrive. Une autre éclair. Mais nous, nous prenons les chocolats au goûter. Et si l'on interdisait, ce serait dur pour nous, réplique une troisième. C'est un groupe qui se dévoue beaucoup pour les familles qu'il a à charge. Ses membres me semblent remplir parfaitement le prédicat contractuel du don et de sa rétribution. Mais en plus, ils éprouvent des sentiments intenses et pénibles face à leur public souvent dépourvu de motivation. Désorientés, ils ne parviennent pas à exposer leurs états d'âme ni leur colère auprès de la direction. Or, ces soignants viennent à se demander ce qu'ils ressentiraient si on leur interdisait de prendre leur savoureux goûter. L'un d'eux, une énorme frustration. Interprétation. Je leur fais part de mon sentiment que leur goûter, un moment de détente et d'échange informel, implique de se laisser aller au plaisir infantile, nécessaire et compensatoire. En d'autres termes, une contrepartie du circuit du don contractuel pour introduire le don à soi-même. J'ajoute, sauf ça dans l'interprétation, qu'ils donnent sans mesure leur temps, mettant en chantier leurs élaborations personnelles et collectives, leurs émotions intempestives et qu'ils y veulent peut-être souligner que pendant leur enfance, ils ont aussi pas reçu pas mal de leurs parents. Ils viennent, ici viennent à propos la distinction entre don et agapé. Dans les soins que nous prodiguons à nos patients, il y a une part d'agapé, peut-être aussi d'un agapé qui nous prodiguons dans ces moments intermédiaires, dans les apartés avec nos collègues, dans nos loisirs pris ensemble, dans les récits entre nous, dans les informations que les sujets sont non rattachés au travail, les culturels et la vie quotidienne, voire dans les ragots entendus et apportés, indispensables pour notre économie. Nous sommes là devant, je cite l'expression de Luciana Bianchera, l'ineffable beauté de la rencontre. Au-delà des faits que les ragots peuvent être parfois corrosifs, la rumeur est une communication qui nous fait sentir en appartenance avec les groupes. C'est la place de l'entre-nous. L'articulation entre don et agapé est-elle possible? L'échange entre donateur et récipiendaire souligne la réciprocité et à ce titre, Ricoeur les rattache à la lutte pour la reconnaissance, selon Hegel, concept largement développé par Axel Honneth. L'agapé apporterait une compréhension complémentaire dans la mesure où elle favorise un apaisement face aux manifestations bellicoses de la réciprocité. La question qui se pose est de savoir si les donneurs désintéressés ne s'attendent pas à une sorte de réciprocité. Elle l'est, en évidence, sous une forme de gratitude, une reconnaissance symbolique. En même temps, divers auteurs se sont demandé ce qui incite les sujets à cette forme de réciprocité et se sont arrimés au principe éthique pour souligner qu'il donne de la force à cet échange. Ainsi, agapé n'est pas seulement une modalité d'échange, mais une célébration des idéaux communs aux acteurs, à leurs principes humanitaires. Et tout ça circule sans arrêt dans notre travail avec les autres. En ses références au philosophe Bertrand Russell, Ricoeur propose que les échanges entre le don et agapé appartiennent à deux niveaux logiques différents. Cette dernière se situe en position plus générale, universelle, celle de l'éthique commune. L'autre, dans un échange concret. De l'autre côté, nous sommes tentés d'étudier ça d'un point de vue psychanalystique. Notamment, voir quels sont les fondements inconscients de tout cela. Une première réponse va se dégager des cas institutionnels cités plus haut. Les soignants consentent à donner au-delà de ce qui stipule leur contrat de travail parce qu'inconsciemment, ils sont liés au principe de générosité et de gratuité du don agapé. Mais aussi parce qu'ils souhaitent se gratifier eux-mêmes, fût-ce par un petit goûter au chocolat chaud. Pour les soignants, participer à l'institution implique des gains intellectuels, une expérience, un apprentissage, ainsi que le groupe leur procure des satisfactions émotionnelles et bien d'autres. Et je pense des retrouvailles avec leurs objets en cerne. On déduirait que simultanément circule une réciprocité sociale et une gratification psychique, celle-ci renvoyant au lien de l'enfance. Les soignants ignorent qu'ils désirent se faire plaisir, ce qui rend d'autant plus opérante l'agapé et de les penser désintéressés. C'est un don sans prix. Je veux dire, nous sommes tellement habitués à recevoir dans une institution, à donner et puis recevoir en échange d'un salaire, qu'on se sent un peu voleur si on fait autre chose que ça. La deuxième réponse se dégage de la première. Ça, c'est pour les débats institutionnels qui courent dans toutes les institutions. Apprendre au travail. Dans les liens premiers, combien de fois et de telle manière la mère, le père, les frères et sœurs font preuve d'une disponibilité, d'une générosité hors prix quand ils s'occupent du bébé. Et celui-ci leur donne infiniment de satisfaction, de l'amour, de la joie, ils se sentent remplis, complets et réconfortés face à bien des privations anciennes et actuelles qui renvoient à leur sentiment de castration. Ils le reconnaissent parfois, ils disent découvrir que l'amour que l'enfant leur inspire leur manquait. En échange des premières dents, soit l'enfant devient le dépositaire potentiel du narcissisme des parents, leurs idéaux, leurs aspirations. La troisième réponse renvoie à la fonction d'agapé dans la constitution du lien intersubjectif. En discutant la place du cadeau dans l'échange du don et du contre-don, Ricoeur s'appuie sur Enaf. Il dit que cet auteur a fait une révolution de la pensée. Il ajoute, il consiste à déplacer l'accent de la relation entre sur les donateurs et les donataires, donateurs et donataires, et à chercher la clé de l'énigme dans la mutualité même de l'échange entre protagonistes et d'appeler la reconnaissance mutuelle, cette opération partagée. L'énigme initiale de la force est supposée résider dans la chose même, c'est-à-dire le cadeau, se dissipe si l'on tient la chose donnée et rendue pour les gages et les substituts du processus de reconnaissance. Les gages de l'engagement du donateur dans le don, met son corps, son psychisme, les substituts de la confiance dans l'apparition du geste en retour. C'est serait la qualité de la relation de reconnaissance qui conférerait sa signification à tout ce que l'on nomme des présents. Les couples de Rosine et Régis illustrent bien ces idées. Et plus loin, pour conclure, Ricoeur dit, c'est sur ces points, la relation de reconnaissance mutuelle, que se croisent les deux problématiques, celle du don et celle du sans-prix. On peut ajouter qu'à la différence de l'approche des philosophes, notre approche psychanalytique reconnaît qu'en donne à soi-même et une sollicité sans attendre de retour s'inspire des désirs inconscients. Et je cite Mélanie Klein qui a parlé des désirs de réparation. Le sentiment de culpabilité se révèle ici de cette façon, comme dans les cas de l'organisation de la concession, susceptible de conduire vers une réparation. C'est-à-dire la réparation apaise la dette. La réciprocité entre soi et soi-même y est active, devenant un des moteurs de la reconnaissance. Notre désir de protection, notre référence aux valeurs, aux objets intérieurs et aux liens qui structurent les surmoi. La joie de la rencontre nous incite à offrir sans prix, ainsi que les sentiments d'obligation lors de l'acquisition de la dette active dans les contre-dons, témoigne ainsi de l'empreinte du surmoi. On peut dire des choses semblables de la demande de pardon, etc. J'ai conclu. Les dons et agapé dans la famille coexistent certes, mais à un niveau logique différent. Tous deux semblent indispensables pour calmer l'esprit du mal de la dette et pour faire prospérer les virtualités de la réciprocité intersubjective. Si les différentes exigences du surmoi s'y révèlent incontournables, l'obligation, la culpabilité, la réparation, les membres de la famille apprennent à vivre avec les autres à travers ces processus qui va de la dette jusqu'à son acquittement. Mais aussi, cette omniprésence de la dette explique les nombreuses dérives, assujettissement, sacrifice, remords, si présents dans les familles dysfonctionnées. La fonction du surmoi, la plus familiale des hypolysémiques des instants, se manifeste dans différentes situations. Dans les sentiments des blessés autrui, si on ne rentre pas les dons par un contre-don. Dans les principes éthiques d'agapé ou des dons, des principes hérités de ceux de nos parents. On pourrait aider davantage les patients si nous pensions que nous avons tous une dette de vie envers nos géniteurs et que la meilleure façon de la solder est de rendre notre vie la plus intéressante et satisfaisante possible. Ainsi pourrait-elle se dire qu'il a valu la peine de nous avoir fait et nous avoir formé. Merci de votre patience.
Merci Alberto. Si on était présent, on applaudirait.
Voilà, c'est juste 45 minutes. Le temps d'une séance.
Merci.
J'allais vous demander un moment si vous étiez confortablement installé dans vos fauteuils, comme si c'était dans une salle. Mais je pense que vous êtes bien,
si, plus,
bien chauffé. Bien
et très attentive. Très attentive.
Bien chauffé sur un feu. On a expliqué que la vie, c'est compliqué dans les familles parce qu'il n'y a plus le feu dans les. Allez, je m'arrête pour laisser la place. C'est un don et un contre-don. Oui. Merci de votre Karine d'avoir bien accepté.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un don. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais lire mes petites notes qui sont juste à côté de vous. Donc, j'espère que ça va vous donner l'impression que je vous parle vraiment. Mais je regarde mes petites notes qui sont juste à côté de vous sur mon écran. Merci beaucoup Alberto. Alors de m'avoir proposé de venir ouvrir le débat autour de vos idées et à propos de ce sujet que je trouve vraiment passionnant et qui m'intrigue depuis longtemps, notamment parce que dans ma pratique du domicile, que vous avez connue vous aussi, j'ai été confrontée à des offres multiples de cadeaux dans des familles pour nous remercier de nos actions. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse de longue date. C'est un honneur, effectivement, que vous m'offrez. Donc, c'est un don, je le prends comme ça. Et voilà, on est d'emblée plongé dans la problématique que vous exposez. Parce qu'en offrant cet honneur, vous ouvrez un échange. Et moi, je l'ai accepté, pleine de gratitude et pleine d'idées que je vais essayer de partager avec vous pour ouvrir le débat. Alors, je vous invite bien sûr, vous aussi, à partager avec nous vos associations, vos questions, et Françoise est là pour nous y aider. Alors, d'abord, je voudrais souligner l'intérêt de cette thématique qui touche absolument tous les groupes. Vous avez cité là les couples, les familles, les soignants. Et alors, les familles, évidemment, en premier lieu, parce que c'est le lieu où le petit être humain apprend cette modalité d'échange qui est au cœur de toutes les interactions de nos vies, en fait. Et j'ai envie de dire aussi pour démarrer que cette problématique, elle me semble atteinte, altérée dans nos échanges actuels, interpersonnels, mais aussi sociaux. J'y reviendrai, je pense, à la fin. Parce qu'un don, c'est un acte très caractéristique de notre humanité. C'est interrelationnel, c'est intergénérationnel. C'est un lien qui peut apporter le pire et le meilleur de la violence, de l'emprise, devenir un pouvoir, du côté de celui qui donne, mais aussi du côté de celui qui accepte ou le refuse. Donc, c'est un sujet bien fidèle à vos intérêts pour le lien, avec ses aléas et son potentiel créatif. Donc, vous ouvrez un champ très vaste de réflexion et moi, je vais vous faire part de deux de mes associations principales sur toutes celles que j'ai eues. Alors, premier point que je propose de mettre au débat ce soir, avec les travaux de Marcel Mauss et de Paul Fustier, j'ai été conduite à penser, donc pour le dire vite, qu'un cadeau n'est jamais gratuit, qu'un don ne va pas sans dette. Ce postulat, pour moi, il ne s'est jamais démenti, ni par mon expérience, ni par la clinique. Je me demande si ce que vous proposez donc et reprenez de percevoir dans l'agapé un amour désintéressé ne supposerait pas un minima, mais quand même une dette. Peut-être plus abstraite, c'est ce que vous avez proposé, moins personnalisée. Vous parlez par exemple de reconnaissance symbolique. Vous proposez une dette envers la société pour la personne délinquante. Vous proposez aussi qu'on fasse un contre-don à la génération qui suit. J'imagine donc facilement que même un amour agapé, désintéressé, induirait une dette, notamment une dette de vie ou peut-être une dette d'humanité, on pourrait peut-être dire ça. Au moins une reconnaissance, de ce don d'amour oblatif une gratitude qui aurait fonction de contre-don. Je vois par exemple des familles hein, où des parents très généreux dans leur amour attendent tout de même de leur enfant qu'il respecte les valeurs humanistes qui sont les siennes et qu'ils tentent de lui transmettre. Je pense aussi à des soignants qui, malgré un élan particulièrement généreux et régulier, ont besoin en aparté de dire combien cette attitude leur coûte lorsqu'ils ont face à eux des patients ou même des collègues qui sont non reconnaissants, non gratifiants. Et aujourd'hui même, en analyse des pratiques, j'ai pensé à vous, une jeune femme aide-soignante disait « Je suis écœurée de mon métier car je vois des collègues intérimaires qui en font le minimum, le strict minimum, alors que moi, je traite les personnes comme si elles étaient de ma famille. » Vous voyez ? Et elle travaille avec des personnes polyhandicapées. Je me demande même si les personnes qui donnent de façon délibérée, gratuite, ne mettraient pas mal à l'aise celui qui reçoit, comme si c'était trop, en fait, pas justifié, pas équitable. Et du coup, ça pourrait cacher pour celui qui reçoit une manifestation d'emprise. Ce serait comme du trop donné qui pourrait évoquer une mère sacrificielle, mais aussi, du coup, toute puissante, une mère parfaite, comblante. Ce serait faire fi de la désillusion. Je crois que recevoir un don totalement désintéressé est difficile à concevoir et que l'on se sentira à minima redevable de quelque chose, même si celui qui donne dit que c'est désintéressé. Vous parlez d'ailleurs de réciprocité belliqueuse à un moment. Vous parlez de triomphe sur l'autre. Et comme vous le dites, il y aurait une fonction à se penser désintéressé, c'est-à-dire pas forcément à l'être, mais à se penser désintéressé. Sans doute ça sert à quelque chose. Alors, voici ma première question. Est-ce que l'agapé totalement désintéressé existe vraiment? Est-ce que ce serait pas un mythe? Je sais que vous aimez beaucoup les idéaux, vous nous l'avez encore dit ce soir. Alors, est-ce que l'agapé serait un idéal vers lequel nous aimerions pouvoir tendre, mais sans y arriver jamais totalement? Ou bien est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire que l'agapé peut s'inscrire dans une réalité? Second point que je vous propose, alors, vous évoquez la clinique issue de l'analyse des pratiques. C'est rare. Et moi, je suis très heureuse que vous parliez de cette clinique-là, parce que c'est vraiment très riche d'enseignements. Je me réjouis que vous l'abordiez. Et je pense que c'est très utile que nous soutenions cette pratique qui est groupale et psychanalytique. Donc, j'en profite pour le dire, parce que ça apporte un grand soutien aux soignants. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une pratique qui résiste encore un peu aux attaques de la pensée et de nos approches groupales et psychanalytiques. Les soignants en sont demandeurs. Les soignants dont vous parlez, ils disent « on mérite bien ce goûter au chocolat là, avec tout ce qu'on donne déjà ». Et il me semble dire aussi qu'ils ont du plaisir à être ensemble, vous l'avez dit, et qu'ils disent « on a du plaisir à être ensemble, ne nous faites pas culpabiliser d'avoir du plaisir. On veut pouvoir le dire ouvertement, ne pas s'en cacher. » Et je crois qu'ils ont raison, qu'on doit soutenir le plaisir qu'il y a à donner en tant que soignant. Si on cherche à le cacher, on génère de la honte, on génère chez les soignants le fait qu'ils vont se cacher pour donner. Enfin, ils vont pas arrêter de donner, mais par contre, ils vont se cacher pour le faire. Et du coup, ça les sort du contrat salarial qui les protège. Et c'est là que se nichent les risques d'emprise, de part et d'autre, hein. Du côté du soignant qui donne et du côté du patient, soi-disant, qui reçoit. Parce que tout ça, c'est un échange. Donc en fait, si on interdit aux soignants d'éprouver du plaisir dans le soin même, je crois que c'est là qu'il y a des dérapages, quoi. Si le don n'est plus vectorisé par le collectif, on expulse en quelque sorte le tiers de l'institution. Or, le tiers, il me semble avoir une place capitale dans le don. C'est un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on développe, que vous développiez, parce que le tiers, c'est un des sujets de vos livres. Hein. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Et je suppose que ça, c'est aussi modélisable au sein de la famille. Je suppose en fait qu'il n'y a pas de don sans tiers. Bref, vous parlez des interstices dans les institutions où se régulent les dons et les contre-dons. Et je constate actuellement la disparition de ces tout petits espaces au bénéfice d'un souci d'efficacité, d'évaluation, de gain de temps, alors que ce sont des rouages absolument indispensables, hein, utiles, et que cette perte-là, elle ruine la générosité des soignants. Moi, c'est ce que je constate. Je me demande donc comment contribuer à faire reconnaître l'utilité de la générosité des soignants, mais en même temps que l'utilité, la nécessité que cela fasse partie des sujets qu'on régule en équipe, en collectif. Et je me dis que dans les familles, c'est aussi en question. Comment apprendre à apprivoiser cette problématique qui infuse dans toutes les relations familiales ? Je me dis qu'il y a là sans doute un chantier de réflexion pour aider les familles à donner, recevoir, c'est-à-dire construire des relations faites d'échange, au vrai sens du terme, non pas seulement communiquer, mais un échange d'âme, comme disait Marcel Mauss, dans les cultures maoris, avec le don, il y a un morceau d'âme, et même si le don est rendu par un contre-don, le morceau d'âme demeure en moi qui ai reçu le don. C'est ce que les maoris appellent le « o », je ne sais pas comment ça se dit, « h-a-u », ce morceau d'âme. Et aujourd'hui, on voit des familles où les enfants refusent totalement le don de leurs parents. Et je me disais, on dirait que ces enfants refusent ce morceau d'âme qui va avec le don, qui reste à notre charge, on pourrait dire, et qui du coup, effectivement, prennent les autres possibilités. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité quand on ne reçoit pas le don ? Soit on se soumet. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange, mais de la soumission et donc de l'emprise. Soit ils entrent dans un combat, une sorte de conflit, une sorte de guerre, où il faut qu'il y ait un perdant, c'est ce que dit Mauss, quitte à être prêt à rompre le lien. Soit dans certaines familles, pour ne pas accepter le don, ils sont prêts à rompre le lien. Voilà. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez, bien sûr. Bon, voilà, il y aurait plein d'autres choses, mais voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, puis on verra s'il y a assez d'associations comme ça, ça m'ira très bien. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Ça fait toujours bizarre de parler à des gens silencieux, mais c'est le jeu.
Merci beaucoup, Karine. Vous avez bien travaillé, très, très bien travaillé. Merci de vos questions. Il y a beaucoup de choses, bien évidemment. Et je n'ai pas peur des soupçonnés agapés d'un sang pris des choses de désintéressées, parce que la psychanalyse aussi nous habitue au contraire, c'est-à-dire il faut soupçonner tout le monde d'avoir cette idée inconsciente qui dément c'est ce qu'ils disent consciemment. Et je crois que ça s'applique en général à la psychopathologie, mais quand même dans ce dont on parle là, il me paraît qu'il y a quelque chose qui, sans parler des transcendances, étant toujours dans cette ronde, dans l'immanence, à considérer effectivement, il faut introduire, pour comprendre ce que je vais vous répondre, que l'autre et l'objet, c'est pas la même chose. L'autre est à la fois un objet réel, quelqu'un qui existe en permanence, et quelqu'un aussi qui a un inconscient. Il y a une double nature, alors que l'objet est toujours, et la psychanalyse, quelque chose d'interne. Et à ce titre, effectivement, il me paraît, que quand on parle des dons et contre-dons, la première acception, on est en train de parler d'une relation entre le sujet et l'autre. Et que l'autre rétribue, c'est dit dans toutes les lettres. Et je crois que nous introduisant l'idée d'inconscient, les choses varient énormément. Alors que quand on parle d'agapé, il s'agit effectivement des personnes, il s'agit pas des personnes généreuses, mais on se donne on donne à son objet en termes, c'est-à-dire, parce que j'ai fait tellement d'allusions, que l'on donne, et en remerciement, en réparation de malfaits ou de notre ambition, etc., qui peut être des sentiments négatifs par rapport à nos parents, ou de les avoir exploités, de les avoir utilisés, d'avoir sucé trop, hein, quand on est bébé, parce que c'est un fantasme qui est valable. On est dans une situation dont on a effectivement besoin de donner, mais c'est à l'objet qu'on donne. Quand je donne à mes enfants pour faire le don, les contre-dons verticales, j'ai implicite, je le donne à mes objets en termes, à mon père, ma mère. C'est très différent. Et ainsi étant, je pense que la notion d'agapé nous permet de dire, j'insiste, j'introduis même la nuance en me disant, est-ce que c'est pas aussi désintéressé que ça.
Oui.
Mais j'ai dit que finalement, il y a dans l'agapé une espèce de plaisir à partager avec l'autre, une morale, une éthique commune. Le plaisir que signifie d'être en groupe. Être en groupe, c'est pas une entité abstraite. Les théories sont très belles, mais c'est une atmosphère. C'est quelque chose de, c'est la petite chaleur des uns avec les autres. C'est une émotion, il y a beaucoup de sensorialité. Les choses ne sont pas très dites. Il y a à la fois, donc, dans cette perspective qui est très importante dans les institutions, dans notre amour de groupe. Pourquoi tellement parmi nous dépensons énormément de temps pour aller aux réunions institutionnelles, aux réunions de nos sociétés, de nos associations. Ça, c'est de l'agapé. C'est-à-dire, on attend quoi? Être en groupe, de nous frotter aux autres, même si on est en conflit, on se dispute. Les disputes, c'est aussi le lien. Les disputes, la querelle, et l'échange vif fait partie de la relation à l'autre, du lien à l'autre. Donc, tout cela nous est précieux, nécessaire pour nous sentir bien et pour articuler l'ici et maintenant avec quelque chose qui est au fond de nous-mêmes et qui vient du passé, c'est notre relation à nos parents sur un mode indifférencié. Il y a tout cet aspect de l'indifférenciation et de la sensorialité qui entre en ligne de compte, de l'archaïsme, qui entre en ligne de compte dans la position de l'agapé. C'est pour ça que j'ai parlé du goût du chocolat. Ces sensations. D'où ça vient, les partages du chocolat? Ça me fait plaisir de sentir la douceur du chocolat. On peut associer à l'origine du chocolat. Vous savez qu'à l'origine, le chocolat était une boisson aphrodisiaque. J'ai un peu peur de vous le dire parce que sinon vous allez prendre quelques litres ce soir. Mais c'est à ça qu'ils croyaient les Indiens qui ont découvert cette graine et puis fabriqué le chocolat. Et puis, il y a tout cela. Quand j'échange le chocolat, il y a quelque chose de là qui me rappelle un moment de ma vie. Ce n'est pas quelque chose de puéril. Il faut différencier le puéril de l'infantile. L'infantile est quelque chose qui existe en nous. Donc, en somme, je pense, pour répondre un peu aux idéaux, je pense qu'il y a à la fois du registre de l'idéal, qui est beaucoup plus circonscrit, mais quelque chose de beaucoup plus archaïque, et indifférencié qui entre en ligne de compte et qui fait intervenir, comme j'ai dit, les sensations. Donc, c'est vrai qu'à ce titre, on peut dire que nous assistons aux réunions, nous assistons à tout ce qui est agréable, sans disant que c'est désintéressé, mais c'est intéressé dans le sens profond de la psychanalyse, c'est-à-dire assouvir des pulsions, assouvir des tendances profondes en chacun de nous, nécessaires pour notre vie psychique, qui nous anime et qui nous soutiennent. Je crois que si je n'allais pas à toutes les réunions où je vais, je pourrais mourir de tristesse. Donc, j'assure mes collègues ici présents des institutions avec lesquelles on travaille ensemble que je ne vais pas mourir pour autant. Je ne vais pas y aller. Mais quand même, il y a quelque chose de fondateur. Donc, ça, c'est pour les dire que il faut intégrer un peu ce qu'il dit. Ricoeur est toujours occupé pour des questions transcendantales derrière, probablement. Je ne sais pas si je ne trahis pas un peu son image, mais quand c'est un peu, il y a un peu un esprit un peu mystique qui l'a fait intervenir. Mais il y a, me paraît-il, quelque chose qui est très primitif, qui entre en ligne de compte et qui nous actualisons chaque fois dans la relation agapé. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et évidemment, parce que là, ça pose beaucoup la question de ce qui est commun, de ce qui est dans l'éthique qui se partage par agapé, et aussi de quelque chose qui est nécessairement à cacher, vous l'avez dit, et je suis content de que vous introduisiez cela, parce que on a découvert que dans toute situation groupale, on a besoin de préserver une certaine intimité avec les uns ou les autres, quelques petits secrets qu'on partage avec tel ou tel sous-groupe, avec telle ou telle personne, qui sont essentiels pour que le fonctionnement institutionnel entre en jeu. Ça, c'est aussi une réponse au grand problème institutionnel. On a sans arrêt les sentiments que quand on travaille dans une institution, on est sans arrêt envahi par l'administratif, par toutes ces choses actuelles et qui nous ficellent, nous laissent pas vivre, nous enchaînent un peu trop. Et donc légitime aussi d'avoir nos jardins secrets à l'intérieur de ce qui est commun dans les institutions, et voilà un peu mes réponses. Je m'arrête là. Excusez-moi, c'était un peu... Maintenant, libérez votre silencieux et parlez, posez des questions. Pardon. Karine, vous voulez dire quelque chose?
Oui, votre réponse, elle me fait penser que, en me replongeant dans un texte de Fustier, là, à un moment, il parle, lui, de l'ambiguïté du don, qu'il serait à alimenter, à garder, à préserver, à nourrir même, l'ambiguïté dans le sens où celui qui reçoit, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce don? Est-ce qu'il est désintéressé ou il ne l'est pas? Et il y a toujours cette ambiguïté, ce doute. Et vous, à un moment, vous parlez de paradoxe. Il me semble que c'est peut-être un petit peu ça que vous dites aussi, c'est-à-dire on ne sait jamais, même si quelqu'un n'a pas l'intention de générer de la dette de l'autre côté, eh ben, il peut le faire malgré lui. Et quelquefois, quelqu'un ne se sent pas redevable, mais en fait, il l'est pour celui qui a donné. Donc, il y a une ambiguïté, voilà, dans le don, toujours, qui oblige chacun à réfléchir à son rapport, finalement, à la dette. Est-ce que je dois me sentir redevable tout le temps? Et je me dis que c'est au travail sans cesse dans nos groupes. Est-ce que je dois me sentir redevable? Voilà, donc ça fait aussi réfléchir pour soi-même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, j'essaie de nous libérer de la dette, un peu de tension profonde, peut-être inconsciente. C'est de nous libérer en partie de la dette, du sentiment d'obligation.
Oui.
Je suis d'accord avec le programme.
Je peux poser une question. Alberto, il me semblait que tu parlais, que ça me semblait très important, que c'était un peu comme une figuration du lien. Parce qu'effectivement, dans le don, il y a toujours de l'ambiguïté, du paradoxe, toujours un petit peu de questionnement sur quelle place on occupe par rapport à l'autre, etc. Et donc, il me semble que si l'on regarde la question du don, on est pris effectivement dans toute sa richesse. Mais par contre, quand tu le posais comme la place, comme une figuration du lien, est-ce que tu pourrais un peu le déployer? Parce que c'est ça, figure, le don, c'est qu'il y a une réciprocité quand chacun a une place de sujet. même si c'est pas une place d'identité égale, il faut qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Et il me semblait que tu avais parlé de la place de la figuration du lien dans le don. Voilà, est-ce que tu pourrais le déployer un peu, s'il te plaît?
C'est-à-dire que oui, merci beaucoup. La question est très importante parce que c'est Ricoeur qui parle beaucoup de l'importance des liens qui se dégagent du don et du contre-don. Et c'est-à-dire qu'on est lié. Et je dirais volontiers une emprise nécessaire, une emprise qui n'est pas pathologique, fonctionnelle. Et ce n'est pas l'enfant qui dit aux mamans, mais tu vas me dire qu'on me laisse les enfants, tu vas me dire une fois pour toutes, ce n'est pas qu'il les tire du pantalon ou de la jupe. Les hommes peuvent utiliser des jupes, je ne suis pas opposé, hein. Mais il est important, effectivement, qu'on comprenne que le don crée du lien par l'emprise fonctionnelle. L'autre est accroché à dire merci. Il faut dire merci à la dame qui te donne un bonbon. Et c'est, vous voyez comment c'est lourd, ou c'est normal. C'est normal, on vit avec. Et pour ça, je crois, en partie pour cette lourdeur de la dette, qu'on a des rituels, des remerciements qui sont totalement formels, qui viennent machinalement. Merci beaucoup, vous étiez très gentil et vous avez pensé à. Mais parfois, on le dit comme un robot et ce n'est pas ça qui serait le meilleur, mais on est peut-être une réaction pour ne pas être tellement assujetti à l'autre. Donc, ça, c'est un aspect du lien. Hein. Je ne crois pas qu'on ait tout dit sur le lien en disant ça, mais que c'est très, très important de le souligner. Et démontrer que finalement, on bonifie. Et ce processus, parce que les exemples que j'ai donnés, qui sont quand même assez durs, vous partagez avec moi, que l'enfant qui a eu le processus de tout ce que j'ai fait pour toi. Mais pour éviter qu'on soit assujetti, je crois, il faut souligner qu'on crée du lien. Comme on a l'habitude de dire dans notre clinique, quand on trouve un enfant qui est très remuant, ou qui dit des choses très dures aux parents, dire, mais cet enfant qui parle, et parler, c'est très important. On trouve toujours un retour des situations pour montrer que le lien, parler, établir la communication est bénéfique, même si on écoute des choses difficiles.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui, il y avait Alain Chénet qui avait demandé la parole, qui avait levé la main. Je ne sais pas si tu as vu, Françoise. Et sinon, oui, bien sûr. Françoise, on ne t'entend pas.
Je ne vois pas tout le monde. Il faudrait écrire son nom pour que je puisse donner la parole. Voilà. Bon, Alain, il y a Alain, il y a Diane, il y a vous aussi. Voilà, on fait dans cet ordre. Très bien.
Dans cet ordre-là. Oui, j'ai levé la main parce que je ne parviens pas à envoyer le message écrit. Ça ne marche pas très bien. Voilà. Je voulais te remercier, Alberto, pour cet exposé qui m'apporte des réponses théoriques à une question qui revient dans des séances d'analyse ou dans des analyses de pratiques de personnes qui travaillent dans les institutions. Et j'entends ces derniers temps que des personnes se plaignent que les gens font juste ce qui est écrit sur le contrat, ils partent chez eux et il n'y a pas d'engagement au niveau du groupe. Et je m'étais posé la question de la responsabilité collective qui ne semble pas inscrite peut-être dans les faits, en tout cas qui n'a peut-être pas de traduction d'ordre administratif, mais qui pourtant est essentiel. Et je trouve que ton exposé vient apporter une réponse à cela. Parce que dans la responsabilité collective, par exemple, c'est partir un peu plus tard le soir parce qu'il y a une urgence, des choses comme ça, il y a du don. Et voilà, je voulais dire ça et ce que tu en pensais. Hein, le lien entre le don et cette responsabilité collective qui n'est pas peut-être reconnue comme telle dans les institutions. En tout cas, c'est ce que j'entends ces derniers temps. Voilà.
Oui, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on ferait beaucoup mieux, les gens se sentiraient beaucoup plus gratifiés, les soignants, si on les reconnaît, si la direction, etc., reconnaît et ce qui signifie donner au-delà de l'heure parce qu'il y a une responsabilité collective. Et je pense que personnellement, quand je vois des choses comme ça qui me peuvent arriver, je sens une très grande gratitude. Et lui dire. Donc, pleinement d'accord pour la reconnaissance de la responsabilité collective. Mais chacun de ces sujets est à développer pour une réflexion qui est essentielle pour nous. Le travail institutionnel est très important.
Sonia.
C'est mon nom de famille, je ne sais pas comment faire pour qu'il apparaisse.
Voilà, je vous prie de m'excuser, Sonia.
Alors, du coup, moi, j'avais une question, mais je voulais… Enfin, pour moi, la question de la responsabilité, juste, je rebondis sur la précédente question. C'est très surmoïque pour moi. Alors, je me posais, du coup, une autre question. Est-ce que le tiers et la question surmoïque sont fondamentalement liés? On parlait du tiers tout à l'heure, du dion. Du don, excusez-moi, il n'y a pas de don sans tiers, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je ne sais pas comment développer ça. La question de la responsabilité, pour moi, c'est très surmoïque parce que ça vient effectivement construire quelque chose du tiers également. Et la question de la responsabilité collective, hein, dont on parlait dans les institutions, est une question de construction surmoïque qui est liée effectivement à la structuration psychique groupale pour moi. Maintenant, voilà, c'est comme ça que ça me vient. Ma question initiale, c'était sur l'importance du lien dans le don et le contre-don. Vous parliez de figuration du lien. Je me disais, je me faisais la remarque qu'il y a quelques années, et depuis, c'est vraiment au cœur de tous les développements cognitifs, neuropsy, je ne sais pas, qu'il parle du bébé, du nouveau-né, du nourrisson comme câblé pour aimer, câblé pour apprendre, câblé, mais pas pour apprendre et pour aimer, donc pas seul, câblé pour le lien. Et je me disais, est-ce que finalement, en psychanalyse, on peut parler du don comme de ce lien finalement, parce que le don crée du lien, mais c'est peut-être le lien qui crée le don, au sens où le lien finalement intersubjectif est à la base et au fondement de l'appareil psychique, au fondement de la construction. Et finalement, ce don qui est lié à la dette, le don et la dette, c'est la même chose finalement. Je dis ça juste parce que ça me venait à l'esprit, il n'y a pas de vie sans dette, on est bien d'accord. Il n'y a pas de dette sans vie. Et que finalement, il y a toujours une ambiguïté, mais que finalement, la question, c'est comment réparer. Mélanie Klein, là-dessus, était vraiment un génie pour moi. La réparation, elle peut être abstraite, elle peut être groupale, elle peut être collective, elle peut être dans l'idéal, même dans l'idéal du moi, enfin, avec une vie intéressante et riche. Mais finalement, je me disais que c'est peut-être la question du lien encore. Lien, qu'il soit éternel parce que interne et permanent, au sens où nos premiers liens sont inscrits et ne peuvent être effacés, quoi qu'il en coûte, même si on peut travailler dessus. Et lien parce que nous ne pouvons pas vivre sans, en tant qu'être humain. En tant que sujet, barré, pas barré, enfin, voilà, avec l'autre et l'objet interne, puisque l'objet interne n'est finalement que la construction de cet autre réel, voilà. En fait, voilà, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez.
Sonia, c'est tout un programme que vous lancez. Il me paraît aussi très important ce que vous avez dit. Et d'un ou à l'autre, c'est effectivement. Et j'ai senti un tout petit peu que quand vous parliez de la responsabilité collective comme un surmoi ou un
oui,
tiers,
vous, peut-être les, que...
vous pensiez que le surmoi est toujours là pour nous appeler à l'ordre, nous punir éventuellement. Et ça, c'est un peu une idée qui est, a été soulignée depuis très longtemps, que le surmoi est aussi amour, que le surmoi est aussi protection de l'autre.
Ah oui?
Oui.
Oui,
bien
c'est,
sûr.
C'est la protection de l'autre. C'est la protection de soi, la protection de l'autre. Enfin, je pense que quand on... et je pense que c'est aussi ce qui est en train de compte. Mais tout totalement d'accord que le lien est à la base de tout ça. Et malheureusement, le mot câblé n'est pas peut-être ce que nous pensons, parce que nous donnons, nous, une égale importance à la représentation et à l'affect. L'affect, on fait tout ça pour un mot, oui. On le dit pas trop parce que, si vous dites, je sais pas, si on parlait trop d'amour dans une institution, on a toujours peur de montrer un peu son intimité.
Oui.
Et c'est, pourquoi pas? Pourquoi pas déclarer son amour à l'autre à travers le don? Mais parce qu'on est en lien, évidemment. Et je vous invite à réfléchir. Donc, à partir de la question de la responsabilité, à partir de la question du surmoi, à l'importance de l'empathie. Est-ce que l'empathie n'est pas la première réaction qu'on a envers les autres? C'est de l'empathie pour cette urgence qui est arrivée après mon heure de fin de travail, et il faut que je m'en occupe. Et ça, c'est aussi extrêmement... C'est les intermédiaires qu'il faut ajouter à toutes ces problématiques, paraît-il, c'est l'empathie pour l'autre et tout l'aspect émotionnel. Les grands problèmes, c'est que Moss a travaillé avec des conflits pour devenir chef. Et ce n'est pas forcément un bon modèle, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de se quereller pour être plus fort que l'autre. Ce n'est pas le problème du lien. On est aussi, etc. Je vais pas énumérer toutes les situations qui ne sont pas de ces registres-là. Mais je suis d'accord que le lien est très important.
Il y avait Diane aussi qui avait une question, je crois.
Alors, bonsoir, je vais remettre ma caméra, ce que j'avais coupé. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment très intéressant et je suis restée à réfléchir, à vibrer un peu sur ce que vous aviez abordé en parlant de l'agapé. Et l'agapé qui est au-delà de la question, on pourrait dire, théorique de ce que vous racontiez, de ce que ça pourrait signifier. Et je me demandais en fait si l'agapé pouvait être un désir sans objet, en fait un désir du désir lui-même, quelque chose qui irait peut-être dans le registre de la présence, de l'être, et peut-être aussi vers la maturité. Donc c'est quelque chose, me semble-t-il, vers lequel on tend, puisque là je nous emmène forcément vers la maturité, mais en tout cas c'est vraiment une question que je trouve vraiment très large et passionnante à aborder. Voilà.
Vous posez une question théorique très, très importante et très dilemmatique. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a toujours des objets et partout et peut-être c'est mettre les objets en serre. Et c'est-à-dire que le désir est porté par un objet. Mais pourquoi pas? Et il y a peut-être, c'est ce qui sont les représentations internes. Et si on parle du lien, les représentations, est-ce qu'il y a un désir des liens? Et je crois aussi qu'il entre en ligne de compte. Et donc, je ne me préoccupe pas trop s'il y a un objet visible, authentique, mais de toutes les façons, quand on parle des principes communs d'humanité, il y a des objets. L'humanité est pleine d'objets. Et on est déjà, combien? 8 milliards d'objets. Donc, et on peut peut-être que le terme désir est très important et les désirs pour le désir lui-même, c'est moi l'objet de moi-même. Je crois que peut-être on peut l'introduire comme ça. Je sauve ma théorie sur l'omniprésence des objets en disant des choses comme ça, je le reconnais, mais ce qui me paraît aussi important, c'est qu'on parle de la même chose. Il n'est pas, il y a aussi le désir du désir, bien évidemment, c'est très intéressant.
Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. J'aimerais bien.
Autre, oui, parce que là, je vois. Et pas, il faudrait écrire.
Benedetta.
Oui.
Oui, non.
Oui.
Benedetta, je peux pas.
Bien oui. Sûr.
D'accord. Oui, alors, moi, il me trotte quelque chose dans la tête, c'est-à-dire qu'on a vu en groupe le film de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Et on a discuté de ça et tous les termes que vous employez, qu'on a entendus. Merci Alberto, parce que on parlait effectivement d'empathie. Comment il s'appelle? Je ne sais pas quel rôle il jouait, mais Forrest Whitaker joue le rôle d'un jeune homme qui a été sauvé par un mafioso. Et le lien était créé entre eux. Mais quel est le lien? Lui, le mafioso a fait preuve d'empathie. C'est-à-dire Forrest Whitaker se trouvait en difficulté, il allait être tué par deux assaillants. Il est intervenu et il s'est construit un lien entre eux sans qu'il se soit établi un contrat, mais c'était quelque chose de tacite. C'est-à-dire que c'est ce jeune homme qui a été sauvé, selon la loi des samouraïs, s'est constitué vassal de ce mafioso. Et en fait, vous parliez de dette, finalement, il n'est pas question de don, il est question au départ d'empathie, et de dette de ce jeune homme vis-à-vis de cette. Et de sacrifice, puisqu'à la fin, il se laisse tuer, il se donne en sacrifice à son. Comment dire ça? Il était le vassal, donc à son seigneur. Et on discutait et tous les mots qu'Alberto a dit comme du lien, la dette, l'emprise, etc. On était tout un groupe à avoir vu ce film. On a parlé aussi du traité de la soumission volontaire et des choses comme ça parce que effectivement, il n'est pas question de don. Il est question de sauver quelqu'un. Et pourtant, cette empathie a créé un lien objectal parce qu'il est devenu ce jeune homme est devenu l'objet sans que l'autre l'ait voulu. Il s'est constitué en tant qu'objet, en fait, de ce seigneur, enfin, de ce type, de ce récit, de comment dire, de cet homme qui l'a sauvé.
Il y a dans la littérature.
Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Parfaitement, parfaitement, parce que Balzac l'a traité dans les dernières parties de la Comédie humaine avec le personnage de Lucien, qui va se suicider après un tas de complications. Et il arrive le faux prêtre Herrera et qui le sauve de la mort. Mais il devient son maître, et lui l'esclave, et lui le vassal, comme vous le dites. Et tout l'ouvrage, les grandeurs des courtisans, des grandeurs et des cadences des courtisans.
Oui, c'est ça.
Et l'histoire de tout ce qui va vivre Julien, qui est vraiment le vassal du
Seigneur.
Mais c'est un faux prêtre, etc. Donc c'est exactement la même histoire, mais
exactement, c'est exactement ça. Je n'avais pas pensé le rapprochement avec Balzac, mais égal, mais c'est vrai. Et en fait, il y a un fil entre eux et la vie de ce jeune homme est carrément attaché à la vie de ce seigneur, et enfin de cet homme qu'il appelle son seigneur, mais en tout cas leur vie est liée, quoi. Comme si c'est l'empathie créait effectivement du lien, et un lien pratiquement indestructible, quoi, par oui.
Je suis d'accord que c'est un grand sujet, parce que dans les sectes, c'est comme ça, les gens entrent en général.
Et bien voilà, oui aussi.
Des deuils ou des dépressions, et ils deviennent bêtes, et après, on fait tout ce que. C'est-à-dire, oui, mais là, on voit bien qu'il y a une intention, un calcul de la part du pervers, je la nommerai comme ça, voire le pervers narcissique, c'est une des formes de la perversion narcissique, ce que vous décrivez là, et qui me paraît donner un très très bon exemple de ce que je dirais une fausse empathie.
Voilà, c'est ça.
Parce que le pervers calcule toujours obtenir quelque chose de cela. Il est très loin d'agapé. Il a plusieurs années-lumière d'agapé. Il est toujours, c'est du calcul, toujours c'est pour avoir un bénéfice de la situation. Et donc, voilà, un cas extrême, je dirais. Mais toujours, ce n'est pas comme ça. Donc, ça dépendra beaucoup de l'intention profonde. Et dans tous les cas de figure, il faut savoir que le contre-don, c'est pas donner une partie de soi. C'est souvent, c'est pas donner sa liberté. Oui,
il y avait Christiane qui souhaitait amener continuer à amener une question.
Excusez-moi, je suis un peu long, parce que quand je suis fatigué, je suis un peu long. j'aimais guérir avec vous. Hein. J'ai ma fatigue.
Nous aussi.
Voilà,
ouais. Oui, c'était juste l'idée qu'on ait fait dans la richesse de cet exposé. Il me venait l'idée que, bien sûr, le don est là. Et je me disais, mais au fond, est-ce que c'est pas ça qui est le moteur de la transmission, qui fait que la transmission continue à exister? Parce que c'est une dialectique permanente, quoi.
Oui, c'est le moteur, c'est ça, j'aime bien. Parce que c'est-à-dire que grâce à ça, on donne à ses enfants, on continue la transmission.
Mais oui, c'est parce qu'on a, oui.
Je pense que...
On transmet, on donne, oui. Ça continue, quoi.
C'est les liens dont on parlait là, oui. C'est les liens de filiation. C'est un lien qui a toutes les caractéristiques du lien qui a été cité par Sonia et d'autres. Ça permet la transmission. Si c'était pas comme ça, on n'aurait pas envie de transmettre à ses enfants. Si on se sentait toujours qu'on a soldé sa dette et qu'on a payé tous les biberons qu'on a reçus, pour le dire rapidement. Et tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on nous en a pris, mais c'est impossible de restituer aux parents. Donc on a là un modèle très important, parce que ça nous ouvre à toutes les chances qu'on travaille avec la famille. Je crois qu'Evelyne a envie de dire quelque chose.
Oui,
je connais quand elle bouge, j'ai dit certaines choses.
Evelyne, c'est à toi. Evelyne Grandjean. On ne t'entend pas, Evelyne.
Voilà, c'est. Non, je n'ai rien de particulier à ajouter. Et j'ai dû m'absenter à un moment, ce qui fait que j'étais pas très présente au moment des discussions, excusez-moi.
Alberto, je voulais juste te poser une question par rapport à Rose là, et ton histoire de cadeau du parfum. Je trouvais que tu avais donné un terme que tu pourrais déployer par rapport au don, justement. Est-ce que c'est un don? Justement, quand tu as parlé du marquage, que ce parfum était… voilà, et donc je crois qu'effectivement, peut-être que tu pourrais déployer la différence entre le don et le marquage, quoi. Le don, ce n'est pas marquer l'autre.
Oui, ça montre bien que quand on donne quelque chose, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on y ajoute. Et qu'on ajoute, non? Et c'est, il paraît que, oui, tu as très bien. C'est marquer son territoire. J'ai pensé à ça, marquer son territoire. Cet homme est à moi. Comme si, Rosine voulait dire, attention les filles, essayez pas de concurrencer avec moi. Et il est à moi. Je pense. C'est. c'est calmer son angoisse. Non, parce que si lui voulait la tromper, il pourrait le faire. Mais c'est très important, effectivement. Et ce qui est, on donne des soins dans les cadeaux. C'est, ça montre très, très bien. Comme si on les mettait sur la peau. Hein.
Il y a Mathieu Bureau aussi qui voulait dire quelque chose.
Hein. On y va.
Mathieu, t'es là? Non? Je croyais. Alors, Evelyne, alors.
Oui, je suis là. Ça y est, là, Mathieu. Tu me prends de court, j'ai rien à en dire. Je pensais à quelque chose que tu nous avais dit il y a quelque temps autour de Belle du Seigneur. Ce que tu nous avais dit, je l'appelais mon sacré, elle m'a... Non, je l'appelais mon sacré, il m'appelait ma sacrée. Et je trouve qu'en termes d'emprise dans la relation passionnelle, c'était extraordinaire. Mais je ne t'ai pas dit ça pour que tu me donnes la parole ce soir. Je pensais que tu allais le dire toi-même.
Non, c'est vrai que c'était un bel exemple. Et mais l'exemple aussi, Spinoza, il en parle aussi très bien de la question dans le don. Il y a comme, je ne sais pas, on est assujetti avec joie. Voilà, il y a une espèce, c'est joie. Il y a quelque chose dans le don. Il y a de la légèreté dans le don. Dans la transmission aussi, il y a quelque chose qui se fait dans le plaisir et dans la joie. Voilà. Alors que quand on commence à être dans l'emprise, le marquage, les délimitations, voilà, je crois que c'est là qu'on est effectivement dans.
Et la limite est mince entre les deux.
La limite est mince, mais ça vaut la peine de les souligner. La joie, le plaisir, réaliser de façon ou d'une autre un désir. Et c'est un peu le l'importance que ça peut avoir. Et pas uniquement penser que la joie viendra du merci que l'autre, quand on voit que l'autre est heureux, à ce moment, pas d'être heureux. Je crois que celui qui offre un cadeau devrait pas attendre que l'autre soit très heureux de le recevoir. Ça suffit du bonheur. Et ça signifie, lui, d'aller le chercher, de penser, d'imaginer, parce que c'est une invitation à la fantasmatique, et c'est la rêverie. On rêve beaucoup et longtemps comment l'autre va réagir devant cela. Et c'est ça qui est l'essence du
Voilà. Cette fois-ci, c'est Evelyne. Hein. Evelyne, cette fois-ci, elle veut parler. Evelyne,
voilà, cette fois-ci, oui. J'ai eu le temps de réfléchir. Donc, c'est une association qui m'est venue là, concernant un autre champ clinique, si j'ose dire, que celui dont on a l'habitude. C'est dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, dans lequel l'engagement est aller donner aux autres est quelque chose qui est tout à fait gratuit, hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'échanges et de discussions qui sont autour justement de cette question-là, c'est-à-dire est-ce que il ne vaut pas mieux financer, payer, qu'il y ait un salaire pour les humanitaires qui vont sur le terrain, au moins certains, de façon à éviter cet engagement qui se dit gratuit, qui en fait n'allait pas vers les autres et qui vient s'infiltrer dans les relations avec les autres, justement. C'est une question qui à un moment donné, enfin là maintenant je ne sais pas trop, mais à un moment donné était sur le devant de la scène et qui se posait véritablement. Quand on va dans d'autres pays, vers d'autres cultures et dans d'autres... vers d'autres personnes, qu'on y va gratuitement et qu'on va leur donner énormément de soi-même et quelles en sont les conséquences dans le lien avec ces autres. C'est une autre clinique, mais qui n'est pas tellement loin peut-être de nos engagements professionnels parfois. Bon, c'est une association que j'avais.
Et c'est très important. Parce que tu ouvres vers l'humanitaire et je pense qu'effectivement, il y a des comme ça. Hein. Je pense que sinon, la personne qui est dans ces dons gratuits va essayer de tirer d'autres bénéfices qui ne sont pas forcément et ce qu'il faut, disons. Et par exemple, c'est pas chercher toujours un journaliste pour lui raconter quelqu'un d'humanitaire, pour lui raconter, et c'est pas à sa voisine, mais il y a d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, ne préjugeons jamais des excès de ça. Je crois que c'est important aussi d'admettre qu'on ne peut jamais être indemne, être toujours dans le renoncement. Il faut aussi admettre qu'il faut nourrir sa personne, son narcissisme.
Anan Riani avait une petite remarque pleine d'humour. Est-ce que vous pourriez la faire? Anan, je ne vous vois pas. Riani, je ne vous vois pas.
Tu peux la lire, c'est quoi que j'ai vu que...
Hein? Je la lis? Alors, si vous avez demandé, est-ce qu'on ne peut pas penser ce cycle de conférences débat comme un don destiné à marquer les autres?
Dans tout cas, elles sont gratuites.
Vous pouvez en parler, je ne vous vois pas.
Bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, ça y est, voilà.
Oui.
Oui, j'avais pensé à ça parce que je commence, depuis que j'ai soutenu ma thèse, je transmets beaucoup aux équipes et je transmets via ma thèse, enfin suivant des sujets particuliers qui me demandent. Et du coup, je trouve que c'est quand même quelque chose dans laquelle je laisse une trace dans l'institution, en fait, dans laquelle je suis sous contrat pour quelque temps, comme une sorte de un don qui n'est pas désintéressé, en fait, finalement. Donc, j'avais pensé, en lien avec ces conférences, qui effectivement sont gratuites, qui sont intéressantes dans la discussion, mais qui restent quand même gratuites, et dans laquelle on a la joie d'avoir une transmission qui du coup va forcément marquer ou pas les pratiques de chacun. Et c'est d'ailleurs ce que j'espère en tout cas rechercher là aujourd'hui, c'est d'être marquée dans ma pratique.
Oui,
ça rejoint la transmission.
Oui, quand on a commencé à décider l'organisation de ces conférences, il y avait l'intention, peut-être, on l'a dit un peu moins, de marquer ce qui va arriver par rapport aux idées de la thérapie familiale psychanalytique, que l'on n'a pas l'occasion de voyer facilement. C'est-à-dire, essayer de transmettre quelque chose qui devient un message. Mais il est important aussi, enfin, la transmission est un marquage, l'éducation est un marquage pour moi. Mais le mot marquage me gêne un peu. Je l'utilisais, et là, je crois que c'était plus ou moins correct. Mais c'est la transmission. Et je crois que le maître, c'est ce qu'il souhaite, c'est marquer l'autre.
Mais quand elle dit ça, Alberto, quand elle dit ça à la femme de Régis, j'ai perdu son prénom, elle parle aussi de ce supplément d'âme que son conjoint emmène avec lui, c'est-à-dire qu'en lui offrant ce parfum, elle habite son homme, elle est toujours avec lui, elle est toujours là, il lui appartient, voilà. C'est ce haut, cette âme.
Non. Oui, l'appartenance est un élément essentiel du lien. Quand on est en lien, finalement, on aboutit à l'appartenance. Aujourd'hui, petit à petit, on a parlé de tous les ingrédients et toutes les déclinations de l'humain, mais la part d'élance, c'est aussi c'est important.
Toi, Karim, tu l'entends comme ça. Moi, je l'entends plutôt comme dans l'exemple d'Alberto, comme un don, comme une colonisation plutôt là.
les gens qui veulent coloniser les autres, on a parlé beaucoup de ça, hein, les posséder, les dominer, donc ils ne sont pas sûrs eux-mêmes de la capacité qu'ils peuvent avoir de se faire aimer. Et ils font des trop. C'est vrai, faire des trop. C'est l'exemple des Rosines, des Régis. Ombline, avec ta main, on voit ta main.
Ombline, à toi alors.
Elle va fatiguer. Elle a la main tout le temps.
Oui, mais je ne vois pas toutes les images, moi, c'est pour ça.
Non, parce que vous étiez en train de parler à juste raison. À partir de la question d'Evelyne sur l'humanitaire, de la question des dons de manière assez générale. Et je repensais à ce que disait Alberto sur le don et la dette dans les familles, mais dans la famille analytique, le premier don a été fait par Freud à son patient qui ne venait vers lui sans argent après la guerre, la première guerre, et qui était tellement démuni qu'il l'a pris gratuitement. On oublie parfois cette origine-là des traitements gratuits. C'est un don qui s'est quand même payé en quelque sorte en retour chez Freud de la façon dont il a parlé de son patient, qui était l'homme au loup et qui a le soubassement de sa théorie par la suite. Alors, peut-être n'était-ce pas un contre-don de cette théorie, mais c'était tout de même ce par quoi est arrivé et passé l'histoire, et l'histoire sur laquelle nous continuons à travailler. L'histoire des traitements gratuits existe encore. Même si nous ne sommes pas que là-dedans, il existe des lieux institutionnels qui le préconisent et qui le permettent. Ne pas oublier que ça aussi, c'est un travail possible, un travail qui est très riche aussi, autant que celui que Freud a pu, à mon sens, ouvrir lorsqu'il a été mis devant le fait accompli qu'il fallait faire quelque chose pour l'homme au loup. Et bon, toute l'histoire qui s'en est suivie a prouvé, en quelque sorte, la richesse de ce premier don. Voilà ce que je voulais ajouter, simplement.
Merci, c'est un exemple historique. Patricia, cache le doigt.
Oui, merci de me donner la parole, mais c'était juste... une réflexion qui ne va pas plus loin que ce que j'ai écrit. Merci pour ces réflexions si riches et ce travail si riche de ce soir. Et ce qu'Evelyne Grandjean évoquait avec l'humanitaire, ça m'a renvoyé à mon éducation religieuse. Et voilà, la question est ouverte pour moi parce que ça m'a rappelé que nous étions tous invités à donner, et il fallait donner dans l'oubli de soi, et j'essayais de faire le lien avec la conférence d'aujourd'hui, de ce soir, et voilà, j'en suis juste là, je ne sais pas. Et l'autre chose qui me fait vraiment réfléchir aussi ce soir, c'était tout à l'heure, c'était la question de la transmission de Christiane Joubert. Je suis restée un petit peu sur ma faim avec la question de la transmission parce que je n'arrive pas à concevoir que le don, la dette, ça pourrait être le moteur de la transmission. Je me demandais si le don, si c'est pas justement l'objet de la transmission. J'arrive pas très bien à réfléchir à cette question. C'est en suspens pour moi, en tout cas c'est au travail. Et sur cette question de la transmission, ça m'intéresse particulièrement parce que oui, pour moi, c'était l'objet entre guillemets de la transmission, le don, Et comme vous disiez, Alberto, il est question des liens de filiation. Et ce qu'écrivait K.S., c'est qu'il y avait un impératif à transmettre. Hein. Et donc, est-ce que c'est toujours du don ? Est-ce que, voilà, comment ça peut se penser ? C'est un peu brouillon. Je vous remercie pour votre compréhension. Et voilà toutes les questions. En tout cas, ça fait penser ce soir à tout ce qui est évoqué. Je n'ai pas de réponse, voilà. Je ne sais pas ce que vous
pouvez dire. Les dons verticales. Il a parlé, Christian, du don vertical de l'enfant qui a reçu à son propre enfant.
Et oui.
Donc, il ne peut pas payer à ses parents, il paye aux enfants. Donc, ça crée un mouvement des générations. Je n'arrivais pas. On ne donne pas uniquement ce n'est pas seulement la transmission qui est en train de venir des comptes, parce que les parents aident beaucoup l'enfant, ils lui permettent d'exister. L'enfant est très immature, il a besoin de beaucoup de choses, alimentation, assistance, protection, santé, mais aussi, j'ai dit, transmission. Il met l'accent là-dessus. Mais tout ça est finalement une transmission. C'est comme que les futurs parents acquièrent, c'est l'idée qu'il faut s'occuper de l'enfant et être en empathie avec cette petite enfant qui est incomplet et immature. Et ça, c'est aussi ce qu'il reçoit de ses parents. Donc, il y a toujours cet enchaînement. Je pense que Christian a posé la question plus correctement. Oui.
Moi, je voulais dire par rapport à Patricia, ce que tu nous disais sur l'oubli de soi dans la religion catho, je crois qu'il me semble que la question du don, justement, dans l'oubli de soi, il y aurait comme une abnégation. Et oui. Dans le don, il n'y a pas d'abnégation. Le sujet est là. Et là, et essentiellement, enfin, toutes les références à Spinoza, c'est dans la puissance de la jouissance au monde et dans la joie. C'est-à-dire, il ne s'oublie pas dans le don, parce que justement, s'il s'oublie, il met l'autre en dépendance et en gratitude obligée.
Oui, c'est tout à fait intéressant, oui. Oui.
Il donne à soi-même. J'ai essayé de penser Spinoza à un autre mot, mais c'est équivalent. Et quoi qu'il en soit, c'est vaste. Hein. On a parlé de toutes les religions. Nicole, c'est Nicole qui parle.
Oui. Merci. Oui, moi, ça me faisait penser à, justement, sur la question du don et du contre-don et de la dette, à la phrase de Goethe, justement, sur, ce que tu as hérité de tes pères afin de le posséder, conquiert-le. Justement, il me semble que c'est à la fois tu hérites de quelque chose, donc tu hérites d'un don, quelque chose qu'on te donne, mais pour te l'approprier, il faut que, et pour ne pas être non plus totalement en dette, il va falloir que tu agisses et que tu sois sujet aussi de ce que l'on va de toi-même, hein, enfin, d'advenir à toi-même en fait. Donc c'est toute la question du contrat narcissique aussi, et donc c'est ce qui, de mon point de vue, permet d'advenir à soi-même, cette question-là du don, du contre-don et de la dette, dans le lien entre l'enfant, sa famille et ce que l'enfant va lui-même transmettre ensuite pour la pérennité en fait de son groupe. Ça me faisait vraiment penser à cette question-là en fait. Parce que je ne pense pas vraiment moi à la gratuité du côté du don. Je pense pour moi le don, il n'est pas gratuit en soi.
Il n'est jamais gratuit.
Voilà, il n'est pas gratuit.
Il n'est jamais gratuit.
Comme disait Alberto, il y a quelque chose du côté, soit du côté du narcissisme, c'est-à-dire on en retire toujours quelque chose,
voilà.
Soit on attend forcément quelque chose, en tout cas un lien peut-être, une reconnaissance, une façon d'exister. Et je me disais, est-ce que peut-être c'est aussi en lien avec peut-être quelque chose du côté de l'idéal du moi? Peut-être, je ne sais pas.
C'est ça l'idée générale. Ce sont des formes, mais on attend quelque chose. On attend peut-être d'être admis dans les liens. d'être reconnu, c'est-à-dire qu'il ait du lien. On a besoin d'être inséré dans un lien et sentir la densité, la richesse du lien. Ça, c'est ça.
Mais tout ce qu'on donne à un enfant, on attend qu'il en fasse quelque chose. Donc, c'est jamais gratuit. Tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on donne à l'enfant, c'est vraiment pour qu'il en fasse quelque chose, qu'il le transforme, et puis qu'ensuite, justement, il puisse continuer à le...
Tout le monde s'accorde que ce sont des dons et des contre-dons. C'est pas agapé. Et je crois qu'on arrive à la conclusion que dans ces domaines des 100 premiers, ou encore, ce n'est pas agapé, c'est du don et du contre-don. Et c'est pas grave que ça soit, c'est mieux que ça soit comme ça.
Est-ce que je peux parler? Il y avait personne?
Sonia, bien sûr, Sonia.
Oui. Juste, ça me faisait juste penser, et peut-être que je terminerai dessus, parce que depuis tout à l'heure, ça me trotte dans la tête. Donc, c'est pour ça que je me permets de... La différence entre le don et l'agapé, comme la différence entre enfin, ça me fait penser à Lacan. Je me souviens plus exactement de comment ça s'appelle, mais je me souviens effectivement de ce que ça signifie. Et la différence entre Eros et, je crois que c'est Aphrodite, ou alors c'est un autre dieu de l'amour ou déesse de l'amour. Il y avait la jouissance, voilà. Le jouir était une chose, hein, dont Lacan parle beaucoup, hein. Et il y avait l'autre, c'est peut-être Aphrodite ou un autre dieu, où la définition c'était se réjouir de l'existence de l'autre, et que c'était complètement et paradoxalement différent, à l'opposé, et pourtant c'était la même voilà, c'est se réjouir de l'existence de l'autre dans le plaisir à être, à penser, mais surtout à partager, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Et on parlait de morceaux d'âme, hein, on parlait de nourrissons, de religion, d'empathie. Moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a travaillé la dernière fois avec vous, Alberto, c'est aux identifications projectives, introjectives et introjectées, et à toute cette... question de fondamentale du lien psychique interne et externe. Et voilà, se réjouir de l'existence de l'autre, c'est lacanien, et c'est en référence avec un dieu de l'amour qui n'est pas Eros, puisque Eros, il est un peu, voilà, il est très égoïste, et je me dis qu'effectivement on est dans quelque chose qui est à un autre niveau, et moi l'agapé me fait penser à ça. Voilà.
Vous c'est tout.
Mais je sais plus, hein, si c'est Aphrodite.
Oui, c'est ça. Oui. C'est pas Aphrodite, il y a beaucoup
de... c'en a un autre, ouais. Alors. À la Gallo, quelque chose comme ça.
Philia,
merci. Oh, j'arrivais plus à me souvenir. Eh ben, j'arrivais pas. C'est bien grec, Philia aussi. Philia, voilà. Je ne sais plus dans quel séminaire j'avais lu ça de Lacan, mais ça m'avait marqué, vraiment beaucoup marqué. Agapé me fait penser à Philia. Et peut-être au narcissisme trophique aussi, à quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vous laisse.
Françoise, est-ce qu'on est prêt à arrêter, à finir?
Et oui, normalement, c'est l'heure de se dire au revoir. Oui, tout à fait. Et de se dire au revoir, de te remercier vraiment beaucoup parce que tu nous as effectivement donné des dons de pensée et de générosité. Et puis, nous devons nous souvenir que nous nous retrouvons, et je n'ai pas retrouvé mon papier, à la prochaine conférence. Je suis désolée, est-ce que tu peux le dire?
C'est le 7 avril.
Avec Myriam Mokhtar qui nous parlera de la thérapie familiale psychanalytique et théorie de l'interculturation. Pardon, j'ai trébuché sur le mot.
Voilà. Toutes les dates en fait, parce que tout à l'heure vous aviez parlé de SICON aussi.
Alors j'ai dit le 7 avril pour Myriam le 9 juin pour l'archaïque comme un langage avec Christelle Lebon, discuté par Lucien Chaumy, et ensuite le 20 octobre avec Sicone qui va parler de l'incestualité ordinaire, entre guillemets. Voilà.
Et je crois qu'il faut signaler que pour chaque conférence, il faut s'inscrire et séparément. Et si les dates arrivant, et vous l'avez noté sur votre calepin, et vous n'avez pas reçu hier, et s'il vous plaît, mettez-vous en contact avec contact avec la société.
Voilà, c'est sur le site, il faut cliquer sur Hello Asso.
Et on va essayer, donc, l'enregistrement doit être saisi, et on va essayer, donc, de l'introduire dans les sites. Je vous remercie beaucoup, c'était très riche, les feedbacks. Merci. Vous m'avez compris, comme disait quelqu'un. Et je suis content de la façon dont les choses se sont passées et la richesse des échanges.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci
aussi.
Karine aussi de nous avoir amené à aller plus loin. Merci.
Oui, merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.
Au revoir. Au revoir et merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.